Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Alors bonjour Françoise Vernin, vous êtes au téléphone, alors cette fois-ci pas avec Bruno Bertrand, d'habitude c'est Bruno Bertrand, mais il n'est pas dans les studios, donc j'ai pris le relais, mais enfin je vous connais un petit peu je crois.
Hein. Oui
on
Olivier,
on a l'habitude de se parler.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous. Alors on va faire les titres de la une de la Marseillaise, oui. Hebdo d'Occitanie.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
Alors, on commence par quoi ? Par les déchets ?
Oui, tout à fait. Alors, c'est un sujet d'actualité, bien évidemment. C'est le casse-tête des déchets, puisque nous sommes à quelques jours d'un vote décisif à la métropole Montpellier-Méditerranée.
Oui.
Et donc, nous expliquons dans ce dossier les enjeux du traitement des déchets, puisque à Montpellier, donc, il y a un projet de construction d'une usine CSR,
oui.
Il va falloir s'habituer
à ça.
C'est une filière pour combustibles solides de récupération, une des solutions proposées par la métropole pour faire baisser la facture, puisqu'actuellement, énormément de déchets de la métropole sont envoyés par camion dans d'autres décharges,
oui,
ou d'autres incinérateurs. Bien évidemment, il y a un volet politique, puisque dans la majorité, une partie des écologistes sont opposés à cette filière.
Et notamment Monsieur Reynaud, je crois, non ?
Exactement.
Voilà, Manu Reynaud, que l'on connaît aussi bien sur les ondes de Divergence.
Hein. Voilà, donc, voilà. Donc on consacre 4 pages sur cette question brûlante des déchets.
Eh ben c'est partout, hein. Toutes les grandes métropoles sont confrontées à
oui,
ça.
Toutes les collectivités.
Ah oui, c'est complexe, hein, parce que c'est à la fois, comme vous dites, politique, mais c'est aussi environnemental, bien entendu. Donc,
c'est environnemental et c'est démocratique aussi, comme choix. Hein.
Ouais, ouais. Donc y a du boulot, donc vous consacrez 4 pages, hein, vous avez dit, sur
exactement,
le sujet.
Exactement, c'est
ouais,
le dossier, c'est notre titre, hein, c'est le casse-tête du traitement des déchets, quoi, hein. C'est ça en fait. Hein.
Bon, ensuite, on va passer à un homme très important dans notre département de l'Hérault.
Oui.
Bah oui, c'est le préfet, non ? C'est que ça, hein,
oui, tout à fait.
Le préfet
donc,
de l'Hérault.
François-Xavier Loche, qui est le nouveau préfet de l'Hérault. Il a pris ses fonctions à l'automne. Et donc, c'est l'invité de notre grand entretien, donc un entretien exclusif avec le préfet. Il nous explique, évidemment, nous l'avons interrogé sur énormément de dossiers, notamment la question du chômage, hein, du rôle de l'État.
Oui, oui, oui.
Et il nous explique notamment que l'État va soutenir et soutient le dispositif territoire zéro chômeur. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y avait des territoires qui étaient quand même pas certains d'avoir le soutien de l'État. Et nous expliquons, évidemment, le préfet s'explique sur cette bataille du chômage, hein, dans un département très, très pauvre,
très touché,
un fort taux de chômage,
touché,
très touché. Et puis, il revient aussi sur l'enjeu de la lutte contre le trafic de drogue,
oui,
mais aussi les transports. Et nous l'avons interrogé quand même sur l'hébergement d'urgence.
Ah oui.
Et faire le point notamment sur les bidonvilles. Donc, il se met quand même dans les pas de son prédécesseur. Si la méthode est moins brutale, il ne désavoue pas les méthodes de l'ancien préfet, le préfet Moutou.
Oui, mais alors, donc, pour revenir au dispositif territoire zéro chômeur, y aura donc des quartiers, je crois, de certaines agglomérations qui seront concernés, notamment à Montpellier, mais aussi, je crois, à l'Odève, hein, il me semble.
Y a... Tout à fait.
Voilà,
il y a l'Odève, Montpellier, Grabel.
Voilà, c'est
voilà,
ça.
Voilà, notamment.
Oui.
Et donc, il cite notamment des exemples à l'Odève avec une entreprise,
oui,
qui s'appelle L'Abeille Verte,
mmh,
et qui a permis à 153 personnes de retrouver un emploi. Voilà.
Et puis c'est bien soutenu par la maire de l'ODEV. On a une maire, une mairesse, je ne sais pas comment on dit.
Oui,
maire,
c'est rare.
Voilà,
femmes,
voilà de, à l'ODEV. Donc c'est toujours, faut souligner parce que quand il y a le vous savez, tous les ans, tous les maires de France se réunissent, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'hommes. Mais il y a quand même de très grandes villes qui sont aux mains dirigées par des femmes. On peut penser bien entendu à Paris.
Notamment.
Voilà, notamment. Bon, alors ensuite, de quoi vous allez nous raconter?
Alors,
on
propose aussi un article sur l'enquête qui est lancée par l'Agence régionale de santé Occitanie, l'ARS. Alors, c'est très important parce qu'elle a décidé d'anticiper l'obligation de contrôler les eaux et les polluants, les éventuels polluants éternels qui sont dans l'eau potable. Ça deviendra obligatoire en 2026 dans les pays de l'Union européenne. Mais on peut dire qu'ici en Occitanie, et notamment dans le Gard, et il y a eu le cas de Salindres, où une association citoyenne, Génération Future, a révélé une enquête avec un taux énorme de polluants éternels. L'ARS était restée assez prudente sur cette question, mais maintenant, ils prennent le taureau par les cornes, ils ont décidé d'étudier plus de 300 points d'eau, 329 points de captage d'eau d'ici fin avril. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette enquête va être menée et surtout rendue publique et d'ores et déjà, les habitants peuvent, d'ailleurs on publie la carte, mais sur les sites notamment de l'ARS, il y a la carte où on peut voir exactement là où vont être menées les études. Alors c'est une vingtaine de polluants éternels. Les polluants éternels, pour aller vite, ce sont des substances chimiques qui résistent, qui ne sont pas dissoutes et qui peuvent poser des problèmes de santé publique assez importants.
On peut penser à l'arsenic par exemple, à des choses comme
au plomb.
Des choses
puis,
qui...
tout ce qui est pesticides.
Les pesticides.
Voilà. Alors, c'est vrai que il y a une vingtaine de polluants éternels qui ont été pointés par l'ARS. Les associations disent qu'il faut en détecter plus, que tous ne sont pas détectés. En tout cas, on peut déjà saluer ce premier pas, puisque ce sont des ingénieurs de l'ARS. Hein,
c'est une étude,
oui. De l'ARS qui va porter à connaissance des citoyens l'état de leur
de l'eau
quoi. Ouais. c'est pas un petit sujet.
Non, c'est un très grand sujet. On sait qu'on l'a vu notamment vous qui êtes du côté de Marseille dans le Bas-Rhône, hein, il me semble qu'il y a eu des études qui ont été faites sur les polluants, il me semble, hein, que
c'était... Ah mais de toute façon, on peut faire le parallèle avec quand même des phénomènes de réchauffement climatique et de sécheresse. Qui impacte aussi la qualité de l'eau. On voit que désormais, on va dire que les pouvoirs publics, via les outils, les ARS, mettent un petit peu quand même le paquet pour aller détecter ces polluants, aller vérifier la potabilité, parce que c'est une question de santé publique.
C'est une question de santé publique, c'est quand même terrible. Hein. Et quand on pense, par exemple, au glyphosate, et qu'on se rend compte que le glyphosate, on en trouve partout, y compris dans nos corps. Dans notre
oui,
corps.
Parce qu'on consomme, parce que voilà, il suffit, il y a parfois des campagnes aussi citoyennes sur le taux de polluants dans les urines.
Hein, oui, c'est ça, ils ont fait, dans l'Hérault notamment, dans l'Hérault, il y a eu une grande campagne qui a été menée et c'est les résultats, ça fait un peu froid dans le dos, si j'ose dire.
Hein.
Oui, on se rend compte qu'on a tous des polluants dans nos corps.
Exactement, c'est pas très réjouissant.
Non, mais bon, si c'est toujours pareil, tout dépend le degré et la teneur.
Exactement. Là, on est sur des... Il faut dire quand même qu'il y a des normes. Pour revenir à Salindres, c'est l'usine Solvay, hein, donc qui est à proximité.
Oui.
Elle est dans les clous des normes. Hein, c'est pas le voilà.
Oui.
Il faut quand même savoir que la législation pourrait être musclée. Il pourrait y avoir des normes encore plus drastiques et qu'il faut trouver aussi des solutions pour éviter le rejet de polluants avec des mesures de comment dire, il faut que les industriels aussi améliorent l'outil de production.
Et puis il y a aussi le fameux pollueur payeur. Il y a, ça, c'est un autre sujet.
Oui, tout
mais...
ça coûte de l'argent.
Ouais, beaucoup.
Coûte de l'argent. Et donc, c'est complètement juste. Il faut absolument que ça soit aussi financé par les industriels.
Par les industriels. Ben là, c'est un sacré sujet. Vous avez une page là-dessus
Oui, voilà. Quasiment. Oui, quasiment avec page. La carte. Tout à fait.
Eh ben, dites donc, ça fait du travail. Alors, qu'est-ce qu'on on va faire un petit peu de culture, peut-être?
Oui, oui, parce que allez. Là, il y a un très, très... Alors, on va du côté du Gard, hein, mais...
D'accord, c'est votre hebdomadaire, me semble-t-il, il s'appelle...
C'est la Marseille Héro, oui.
Hebdo, Gard, Héro. Donc, on est très bien dans le Gard.
Alors, on a un très, très beau festival, le festival Itinérant, c'est le festival de cinéma du Gard. D'Alès. Il commence aujourd'hui, donc ce vendredi 22,
d'accord,
jusqu'à la fin du mois.
Wow.
C'est la 42e édition. Donc évidemment, au programme, il y a énormément
de films
à découvrir. Il y a des courts-métrages et puis on a vraiment le coup de cœur pour la comédienne réalisatrice Yam Abbas, mm-hmm, qui va recevoir le 28 mars au Cratère, donc le prix Itinérance 2024.
D'accord.
Alors c'est une actrice dont on connaît absolument le visage, qui a énormément tourné. Et récemment, sa fille a consacré aussi un film à sa mère et à sa grand-mère. Ce sont des réfugiés palestiniens. Donc
oui.
Il y a une résonance aujourd'hui avec...
les événements, on va dire.
Avec les événements.
Pour pas parler d'une guerre totale.
On peut parler de massacre. D'ailleurs, on consacre dans nos pages internationales un papier aussi à la situation à Gaza. Mmh. Et donc, évidemment, le cinéma, c'est le reflet du monde, hein, de notre société. Et on a énormément de choses. Donc, en plus, c'est un programme avec des tarifs vraiment accessibles, puisque c'est 8€ la séance,
d'accord,
c'est 6€ quand c'est réduit, et les moins de 14 ans, c'est 4,50€. Mmh. Il y a un pass, ouais, pour toutes les séances à 70€, et à 20€ pour les lycéens et les étudiants.
Oui, donc il y a un effort pour que les gens aillent voir ce cinéma.
Tout à fait. Et puis la programmation, bon, évidemment, on ne peut pas donner toute la programmation dans le journal, mais en tout cas, on donne envie d'aller à Alès et d'aller découvrir encore une fois ce programme formidable. Il y a Julien Camille qui préside ce festival Itinérance qui s'exprime dans nos colonnes.
Oui.
Et donc, il nous dit qu'ils ont toujours voulu, tenu à ce que ce festival soit le plus ouvert possible, en défendant un cinéma populaire et exigeant.
Voilà, populaire ne veut pas dire de mauvaise qualité.
Exactement.
Nous sommes bien d'accord, comme la culture populaire, ça ne veut pas dire n'importe quoi, nous sommes bien d'accord. Hein.
Voilà, et il y a un grand succès, parce que sur une dizaine de jours, il y a quand même un peu plus de plus de 40 000 personnes, hein, qui viennent voir les films. Et là, ils espèrent que cette année, puisqu'il y a eu quand même les 2 ans de Covid qui ont été très difficiles, hein, ils espèrent atteindre une jauge de 45 000 au total. Et là, je le dis vraiment pour résumer, il y a une soixantaine de films en avant-première pour l'essentiel pendant ces 10 jours. C'est-à-dire que pour la plupart, ils sont inédits, ils n'ont pas encore trouvé de distributeur.
Mmh, c'est ça, oui.
Il y en a qui sont réédités.
Ils viennent avec les réalisateurs, je pense souvent, il y aura la présence d'acteurs ou de réalisateurs sur place.
Exactement. Voilà. Évidemment, alors le terme itinérance, pourquoi? Parce que c'est toujours en lien avec la question de l'itinérance, du voyage. Mmh. Et évidemment, la valeur ajoutée, si je puis dire, c'est que sont accueillies les équipes, comme vous le disiez, de films. Et le public peut rencontrer les équipes des films et donc dialoguer avec les créateurs.
Ça, c'est formidable. C'est pas du tout comme... Je dis souvent ça quand je reçois des gens qui font venir des réalisateurs ou des acteurs. C'est pas pareil. On va pas s'asseoir dans une salle de cinéma, c'est autre chose. On va voir quelque chose et on va parler avec les gens qui ont participé, réalisé, joué, ou même, vous savez, il y a des métiers incroyables dans le cinéma qui ne sont pas toujours mis en avant, comme la lumière, la photo. Et tout ça et les gens qui font les décors et tout. C'est incroyable ce monde du cinéma, c'est vraiment beaucoup de gens qui sont investis, faut voir c'est pour ça que ça coûte cher d'ailleurs, hélas,
hein. Exactement. Et puis là je rappelle donc je parlais de Yam Abbas,
oui.
Donc pour la rencontrer c'est le 28 mars à 20h45 au Cratère, donc elle va recevoir le prix Itinérance 2024. Je cite le documentaire de sa fille, Lina Soualem, qui s'appelle Bye Bye Tibériade, qui est sorti à la fin du mois de février, qu'on peut toujours voir, hein, il est toujours distribué. Et donc, voilà, c'est vraiment un documentaire. Il va être d'ailleurs présenté aussi au festival Itinérance, on pourra le voir.
Oui, et je crois qu'il a été programmé à Montpellier, à Utopia, il me semble.
Oui, certainement.
Ou à Diagonal, ou deux, d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Enfin, et puis, donc, cet artiste qui s'appelle Yam Abbas. Alors, Abbas, c'est vraiment un nom palestinien, puisque le président de l'autorité palestinienne s'appelle Abbas, mais ça n'a rien à voir, bien entendu, c'est un nom assez courant, je crois, en Palestine.
Tout à fait.
Ce nom. Alors, écoutez, on arrive doucement à la fin de la présentation. Je crois qu'on a parlé aussi, me semble-t-il, de la fin de vie.
Oui, tout à fait. Alors, nous avons dans nos... Tout à fait, lundi, l'émission Quoi de neuf, que j'ai le grand plaisir de co-animer avec vous.
Olivier. Ah, merci.
Donc, nous avons reçu le président d'Ultime Liberté, hein, une association de Montpellier, une association que nous avons donc interrogée. Donc, c'est Pierre Blanchet qui participe, donc qui est membre de cette association et qui, nous l'avons interrogé sur le projet de loi sur la fin de vie qui va être débattu à partir du 27 mai. À l'Assemblée nationale. Et,
sacré sujet, hein, Françoise, ouais, c'est un sacré sujet.
Je pense que nous allons y revenir au moment de la discussion parlementaire, parce que justement, l'association Ultime Liberté...
va saisir les parlementaires héroletés, je nous ai dit. Hein.
Voilà, exactement, pour pouvoir faire valoir un petit peu sa position. Ultime Liberté, comme son nom l'indique, c'est qu'ils ne veulent aucun critère. Ils sont pour que... tout un chacun, chaque individu puisse décider de sa mort. Donc évidemment, il salue parce que c'est un premier pas, mais comme nous le dit Pierre Blanchet, il nous l'a dit sur l'antenne, et on peut le réécouter,
en podcast, bien sûr.
Il faut être objectif, quand on part de rien, de zéro, c'est déjà une avancée.
C'est toujours mieux que rien, comme on dit. Hein,
voilà, exactement.
Mais donc, c'est un sujet de société qui touche tout le monde, hein. On a parlé avec lui, et a priori, les Français, dans leur immense majorité, les Françaises et les Français, sont favorables à qu'on en discute sérieusement, on peut dire ça.
Ben, ils sont favorables, y compris une loi, puisqu'il y a une convention citoyenne qui s'est prononcée à 70% pour un projet de loi. Et puis, dans la société, les limites de la loi Claes-Leonetti, hein,
aujourd'hui,
qui propose une sédation...
jusqu'à la fin.
Profonde, jusqu'à la fin. Et d'une, elle n'est pas connue, et de deux, beaucoup de personnes disent qu'elle a beaucoup de limites et qu'il faut être beaucoup plus clair. Et on est très en retard en France sur cette question de la fin de vie, parce que il y a quand même beaucoup de pression de la part notamment des églises.
Les religions, bien sûr.
Les religions qui sont complètement contre. Mmh. Et puis, il y a aussi la Fédération des soins palliatifs qui a une position très tranchée là-dessus. En tout cas, c'est une question... il va y avoir l'avantage aussi de ce projet de loi, c'est qu'il va y avoir un débat démocratique.
C'est ça. Il n'y aura
pas une procédure d'urgence. Donc, les parlementaires qui sont les élus de la nation vont pouvoir vraiment débattre, discuter, et les citoyens vont pouvoir les interpeller aussi.
Ça, c'est ça qui est bien. C'est que, on peut discuter, comme on l'a fait pendant une heure avec ce monsieur-là, donc
Pierre Blanchet
d'Ultime Liberté. Mais surtout, justement, ça a ouvert le débat. Ça a ouvert le fait que ça, qu'il y ait un projet. Alors, on dit bien, c'est pas une loi, parce qu'il y a des gens qui disent ça y est, c'est
fait. Non,
c'est
un projet de loi.
C'est un projet de loi, Monsieur Macron, notre président.
C'est absolument
à
pas
tous.
Il a donné.
Voilà.
On sait le contenu. Il a été présenté. Il va être présenté au Conseil des ministres. Il est allé. Bon, c'est la procédure parlementaire. Il y a un projet de loi. Donc, le Conseil d'État est saisi. Le Conseil des ministres va le présenter. Et après, il va aller à l'Assemblée nationale, il ira au Sénat, il y aura certainement une navette parlementaire, peut-être une commission mixte paritaire rassemblant sénateurs et députés pour s'entendre sur un texte commun qui conviendrait.
On commence à avoir l'habitude. On commence à avoir l'habitude des commissions mixtes.
Voilà. En tout cas, sur ce sujet, il ne peut pas y avoir de 49-3.
Hein, non, c'est pas possible.
Il y aura un vrai débat.
Ouais, un vrai débat. Eh bien, écoutez, on va revenir un petit peu rapidement là, donc, sur l'ensemble de cette Marseillaise.
On va rappeler très rapidement.
Voilà, allez-y.
Notre une, c'est le casse-tête des déchets à traiter, puisque le 2 avril, les élus de la métropole Montpellier-Méditerranée doivent se prononcer sur le futur de la gestion des déchets, qui coûte très cher à la collectivité et donc aux citoyens. Nous avons un entretien important avec le préfet de l'Hérault, François-Xavier Loche. On revient bien évidemment et on...
Nouveau, faut bien préciser, c'est le nouveau préfet. Il est arrivé il n'y a pas très très longtemps.
Il est arrivé en octobre.
En octobre, c'est ça. Donc, il prend ses marques en quelque sorte.
Les grands serviteurs de l'État,
on les envoie d'un département à l'autre, d'une région à l'autre.
Il était dans le Tarn précédemment.
Voilà, donc,
il était en Occitanie déjà.
Ah, il était toujours pas trop loin. Donc.
Oui, il n'était pas trop loin. Il vient du cabinet, il est passé par les cabinet d'Emmanuel Macron à l'Élysée de Gérard Darmanin.
D'accord.
Il a été mis dans le bain très vite puisqu'il y a eu la crise agricole. On n'a jamais vu le préfet descendre de son bureau, aller à la rencontre des agriculteurs qui ont allumé un brasero devant la préfecture. Il a été tout de suite
dans le bain.
Oui. Voilà. Et puis on est dans le bain avec l'ARS puisqu'il lance une étude inédite sur les polluants éternels. Donc c'est l'Agence régionale de santé qui va contrôler la présence de polluants éternels, c'est-à-dire des polluants chimiques, dans 329 points de captage d'eau en Occitanie et donc dans l'Hérault et dans le Gard, d'ici à la fin du mois d'avril, des résultats qui vont être rendus publics.
Eh bien, dites donc que ça, c'est très, 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 très important aussi. Alors, vous avez des sujets vraiment qui peuvent vraiment intéresser tous vos lecteurs.
Il y a de tout, là.
Hein, et c'est pas des petits sujets. Hein.
Non, ce qu'on veut faire, c'est déjà sur les déchets, par exemple, c'est d'exposer tous les termes du débat pour que les citoyens, les lecteurs et les lectrices se fassent leur propre opinion, et puis connaissent un petit peu l'historique, parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui la crise des déchets dans la métropole de Montpellier si on ne connaît pas l'histoire des 30 dernières années, pour aller vite, voire des 60 dernières années, puisque ça a commencé en 1967 avec la création d'une décharge.
Et après, je me rappelle, moi aussi, il y a longtemps, où les communes étaient toujours d'accord pour qu'il y ait des déchets. Ou des usines, mais jamais chez elles.
Mais bien sûr, parce que ça peut. Voilà, parce que les décharges à ciel ouvert avec les casiers, ça a été interdit, il a fallu la fermer.
Il y avait Villeneuve-et-Maguelone, il me semble. Il y en avait plusieurs dans les Hérault.
Voilà, évidemment, il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, la métropole envoie ailleurs et Montpellier envoie ailleurs ses déchets. Oui. Et on a 4500 camions par an
qui transitent,
qui exportent les déchets de Montpellier à l'extérieur. Oui. C'est un surcoût annuel de 19 millions d'euros. Donc les élus, en fait, le traitement des déchets, c'est un sujet très sensible et il implique des choix politiques lourds. Fort. Et donc la grande question, c'est est-ce qu'il faut continuer à exporter par la route les déchets avec un coût exorbitant, ou est-ce qu'il faut opter pour une technologie nouvelle, certes controversée par une partie de la majorité écologique, ça s'appelle le CSR, vise à revaloriser des déchets en énergie, et couplé avec la stratégie zéro déchet, qui a été adopté à l'unanimité en 2020.
Oui.
Voilà, alors une partie des écologistes disent non, c'est antinomique. Une autre partie est moins...
Il y a le débat, là. Il y a vraiment débat. Hein. Même au sein même des écologistes, hein, nous sommes bien d'accord.
Complètement, puisque François Vasquez, qui était donc le vice-président délégué aux déchets, sa délégation lui a été retirée par le président de la métropole et maire de Montpellier, Michael de la Fosse, parce que le désaccord est trop profond. Vous citiez Manu Reynaud, qui n'est pas
la métropole,
il était à la ville de Montpellier, mais il est plus nuancé sur le sujet, et on donne la parole à d'autres élus, notamment Hervé Martin, qui est élu communiste, et qui explique aussi les enjeux aussi en termes de coûts pour les citoyens.
Oui, mais c'est important ça aussi, il ne faut pas oublier.
Voilà. Hein.
Et puis Coralie Mention aussi qu'on peut citer aussi. Tous ces gens dont vous venez de donner les noms, ils sont tous passés derrière nos micros à Divergence FM.
Hein. Exactement, nous avons tous invité, tout à fait. On continuera aussi à le faire. Oui. Et d'ailleurs, je tiens à souligner qu'on a la Marseillaise a participé à un débat, a co-animé un débat à la Carmagnole.
La Carmagnole.
Le 12 mars, il y avait donc François Vasquez, il y avait Christian Assaf pour aussi la métropole. Hein. Ça a été un débat vif, mais un débat, on va dire, démocratique. Et puis je tiens à souligner aussi le maire de Grabetz, qui est le président de la métropole de Montpellier, qui lui est délégué à la gestion de l'eau, c'est donc René Revol. Lui, il fait le parallèle entre la gestion de l'eau et la gestion des déchets, parce que pour lui, ça relève des piliers fondamentaux de la planification écologique. Donc, on donne un petit extrait de sa note de bloc. Il tient un blog très intéressant, René Revol, et il faut lire ce qu'il a écrit le 12 mars sur son blog. Hein, je ne lui fais pas de la
publicité. Non, mais
je trouve que ça participe du débat.
Oui.
Et c'est pour pouvoir se forger son opinion et vraiment...
ça alimente le débat, on va dire. Hein, voilà,
que les citoyens se réapproprient ce genre de débat.
Et puis
vrai qu'on est loin encore de la gestion directe publique parce que les grands industriels obtiennent les délégations de services publics. Ils ont des salariés, ils ont le savoir-faire. Et aujourd'hui, le défi pour le service public de se réapproprier ces savoir-faire. C'est possible pour l'eau, puisqu'on l'a Montpellier, la métropole, a prouvé qu'elle pouvait le faire en gérant cette crise de l'eau et de l'assainissement. Demain, ça peut être possible
pour
les déchets, mais c'est un chemin avec plusieurs étapes, parce qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain d'un système pendant plusieurs décennies en DSP, en régie.
Oui, bien sûr.
Ça nécessite beaucoup d'argent.
Oui.
Il faut les compétences, mais il ne faut pas simplement constater et aller de l'avant, et c'est ce que dit notamment le vice-président René Revol, qu'il faut entendre comme tous les autres élus, et c'est un débat très intéressant.
Écoutez Françoise, on arrive à la fin de ce passage sur la une de la Marseillaise. Juste un petit mot pour René Revol, pour lui exprimer toujours notre soutien, puisqu'il a été agressé en tant que maire de Grabel il n'y a pas très longtemps par des luberlus, je crois.
Non, mais c'est l'extrême droite.
Hein. Oui, non, mais c'est pareil.
Nous avons évidemment relaté cette agression à la fois lâche et très dangereuse, d'un élu de la République, qu'on soit d'accord ou pas d'accord,
bien sûr.
Les engagements.
C'est pas comme ça qu'on fait le débat démocratique, hein, François. Nous sommes d'accord.
C'est le contraire du débat démocratique.
Merci beaucoup, en tout cas.
Merci, Olivier.
Et
à
très bientôt sur les ondes de Divergence FM et donc à la une de la Marseillaise.
En partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.